Shakespeare. Le roi Lear, personnage. Lear, roi de la Grande-Bretagne. Le roi de France, le duc de Bourgogne, le duc de Cornouailles, le duc d'Albany, le comte de Kent, le comte de Gloucester, Edgar, fils de Gloucester, Edmond, bâtard de Gloucester, le fou du roi Lear, Oswald, intendant de Gonéril, Curan, courtisan, un vieillard, vassal de Gloucester, un médecin, un officier au service d'Edmond, un gentilhomme attaché à Cordélia, un héros. Gonéril, Regan et Cordélia, les filles du roi Lear, chevaliers, officiers, messagers, soldats, gens de la suite. La scène est dans la Grande-Bretagne. Shakespeare. Le roi Lear, acte 1er, scène 1. La grande salle du palais des rois de Grande-Bretagne. Entre Kent, Gloucester et Edmond. Kent. Je croyais le roi plus favorable au duc d'Albany qu'au duc de Cornouailles. Gloucester. C'est ce qui nous avait toujours semblé. Mais à présent, dans le partage du royaume, rien n'indique lequel des ducs il apprécie le plus. Car les portions se balancent si également que le scrupule même ne saurait faire un choix entre l'une et l'autre. Kent. Montrant Edmond. N'est-ce pas là votre fils, milord ? Gloucester. Son éducation, messire, a été à ma charge. J'ai si souvent rougi de le reconnaître que maintenant j'y suis bronzé. Kent. Je ne puis concevoir. Gloucester. C'est ce que put, messire, la mère de ce jeune gaillard, si bien qu'elle vit son ventre s'arrondir et que, ma foi, messire, elle eut un fils en son berceau avant d'avoir un mari dans son lit. Flairez-vous la faute ? Kent. Je ne puis regretter une faute dont le fruit est si beau. Gloucester. Mais j'ai aussi, messire, de l'aveu de la loi, un fils quelque peu plus âgé que celui-ci, qui pourtant ne m'est pas plus cher. Bien que ce chenapan soit venu au monde un peu impudemment avant d'être appelé, sa mère n'en était pas moins belle. Il y eut grande liesse à le faire, et il faut bien reconnaître ce fils de putain. Edmond, connaissez-vous ce noble gentilhomme ? Edmond. Non, milord. Gloucester. Milord de Kent, saluez-le désormais comme mon honorable ami. Edmond, s'inclinant. Mes services à votre seigneurie. Kent. Je suis tenu de vous aimer et je demande à vous connaître plus particulièrement. Edmond. Mais sire, je m'étudierai à mériter cette distinction. Gloucester. Il a été 9 ans hors du pays et il va en partir de nouveau. Le roi vient. Fanfare. Entre Lear, Cornouailles, Albany, Gonéril, Regan, Cordélia et les gens du roi. Lear. Gloucester, veuillez accompagner les seigneurs de France et de Bourgogne. Gloucester. J'obéis, mon suzerain. Sortent Gloucester et Edmond. Lear. Nous, cependant, nous allons révéler nos plus mystérieuses intentions. Qu'on me donne la carte. On déploie une carte devant le roi. Sachez que nous avons divisé en 3 parts notre royaume, et que c'est notre intention formelle de soustraire notre vieillesse aux soins et aux affaires pour en charger de plus jeunes forces, tandis que nous, nous traînerons sans encombre vers la mort. Cornouailles, notre fils et vous, Albany, notre fils également dévoué, nous avons à cette heure la ferme volonté de régler publiquement la dot de nos filles pour prévenir dès à présent tout débat futur. Quant aux princes de France et de Bourgogne, ces grands rivaux qui, pour obtenir l'amour de notre plus jeune fille, ont prolongé à notre cour leur séjour galant, ils obtiendront réponse ici même. Parlez, mes filles. En ce moment où nous voulons renoncer au pouvoir, aux revenus du territoire comme aux soins de l'État, faites-nous savoir qui de vous nous aime le plus, afin que notre libéralité s'exerce le plus largement là où le mérite l'aura le mieux provoqué. Gonéril, notre aînée, parle la première. Gonéril. Moi, sire, je vous aime plus que les mots n'en peuvent donner une idée, plus chèrement que la vue, l'espace et la liberté, de préférence à tout ce qui est précieux, riche ou rare, non moins que la vie avec la grâce, la santé, la beauté et l'honneur du plus grand amour qu'enfant ait jamais ressenti ou père inspiré, d'un amour qui rend le souffle misérable et la voix impuissante. Je vous aime au-delà de toute mesure, Cordélia, à part. Que pourra faire Cordélia ? Aimer et se taire. Lire, le doigt sur la carte. Tu vois, de cette ligne à celle-ci, tout ce domaine couvert de forêts ombreuses et de riches campagnes, de rivières plantureuses et de vastes prairies. Nous t'en faisons la dame, que tes enfants et les enfants d'Albanie le possèdent à perpétuité. Que dit notre seconde fille, notre chère Regan, la femme de Cornouailles ? Parle. Regan. Je suis faite du même métal que ma sœur, et je m'estime à sa valeur. En toute sincérité, je reconnais qu'elle exprime les sentiments mêmes de mon amour, seulement elle ne va pas assez loin, car je me déclare l'ennemi de toutes les joies contenues dans la sphère la plus exquise de la sensation, et je ne trouve de félicité que dans l'amour de votre chère Altesse. Cordélia, à part. C'est le cas de dire. Pauvre Cordélia. Et pourtant non, car j'en suis bien sûr, je suis plus riche d'amour que de paroles. Lire à Regan. À toi et au tien, en apanage héréditaire, revient cet ample tiers de notre beau royaume, égal en étendue, en valeur et en agrément à la portion de Gonéril. À Cordélia. À votre tour, ô notre joie, la dernière mais non la moindre, vous dont le vin de France et le lait de Bourgogne se disputent la jeune prédilection. Parlez. Que pouvez-vous dire pour obtenir une part plus opulente que celle de vos sœurs ? Cordélia. Rien, monseigneur. Lire. Rien ? Cordélia. Rien. Lire. De rien, rien ne peut venir. Parlez encore. Cordélia. Malheureuse que je suis, je ne puis soulever mon cœur jusqu'à mes lèvres. J'aime votre majesté comme je le dois, ni plus ni moins. Lire. Allons, allons, Cordélia, réformez un peu votre réponse, de peur qu'elle ne nuise à votre fortune. Cordélia. Mon bon seigneur, vous m'avez mis au monde, vous m'avez élevé, vous m'avez aimé. Moi, je vous rends en retour les devoirs auxquels je suis tenu. Je vous obéis, vous aime et vous vénère. Pourquoi mes sœurs ont-elles des maris si, comme elles le disent, elles n'aiment que vous ? Peut-être, au jour de mes noces, l'époux dont la main recevra ma foi emportera-t-il avec lui une moitié de mon amour, de ma sollicitude et de mon dévouement ? Assurément, je ne me marierai pas comme mes sœurs, pour n'aimer que mon père. Lire. Mais parles-tu du fond du cœur ? Cordélia. Oui, mon bon seigneur. Lire. Si jeune et si peu tendre. Cordélia. Si jeune, monseigneur, et si sincère. Lire. Soit. Eh bien, que ta sincérité soit ta dot, car par le rayonnement sacré du soleil, par les mystères d'Hécate et de la nuit, par toutes les influences des astres qui nous font exister et cesser d'être, j'abjure à ton égard toute ma sollicitude paternelle, toutes les relations et tous les droits du sang. Je te déclare étrangère à mon cœur, et à moi dès ce moment pour toujours. Le Scythe barbare, l'homme qui dévore ses enfants pour assouvir son appétit, trouvera dans mon cœur autant de charité, de pitié et de sympathie que toi, ma ci-devant fille. Kent. Mon bon suzerain. Lire. Silence, Kent. Ne vous mettez pas entre le dragon et sa fureur. C'est elle que j'aimais le plus, et je pensais confier mon repos à la tutelle de sa tendresse. Arrière, hors de ma vue, puisse la tombe me refuser sa paix si je ne lui retire ici le cœur de son père. Appelez le français, m'obéit-on ? Appelez le bourguignon. Cornouailles, Albanie, grossissez de ce tiers la dot de mes deux filles. Que l'orgueil qu'elle appelle franchise suffise à la marier. Je vous investis en commun de mon pouvoir, de ma prééminence et de mes vastes attributs qui escortent la majesté. Nous-mêmes, avec 100 chevaliers que nous nous réservons et qui seront entretenus à vos frais, nous ferons alternativement, chez chacun de vous, un séjour mensuel. Nous ne voulons garder que le nom et les titres d'un roi, l'autorité, le revenu, le gouvernement des affaires. Je vous abandonne tout cela, fils bien-aimé. Pour gage, Voici la couronne, partagez-vous-la. Il se démet de la couronne. Kent, royal Lear, que j'ai toujours honoré comme mon roi, comme mon père, suivi comme mon maître et nommé dans mes prières comme mon patron sacré. Lear, l'arc est bandé et ajusté. Évite la flèche. Kent, que plutôt elle tombe sur moi, dût son fer envahir la région de mon cœur. Que Kent soit discourtois quand Lear est insensé. Que prétends-tu, vieillard? Crois-tu donc que le devoir ait peur de parler, quand la puissance cède à la flatterie? L'honneur est obligé à la franchise quand la majesté succombe à la folie. Révoque ton arrêt, et par une mûre réflexion, réprime cette hideuse vivacité. Que ma vie réponde de mon jugement. La plus jeune de tes filles n'est pas celle qui t'aime le moins. Elle n'annonce pas un cœur vide, la voix grave, qui ne retentit pas en un creux accent. Lear. Kent, sur ta vie, assez. Kent, ma vie, je ne l'ai jamais tenue que pour un enjeu à risquer contre tes ennemis, et je ne crains pas de la perdre quand ton salut l'exige. Lear. Hors de ma vue. Kent, sois plus clairvoyant, Lear, et laisse-moi rester le point de mire constant de ton regard. Lear. Ah, par Apollon. Kent. Ah, par Apollon. Roi, tu adjures tes dieux en vain. Lear, mettant la main sur son épée. Ô vassal, mécréant. Albany et Cornouailles. Cher sire, arrêtez. Kent. Va. Tue ton médecin et nourris de son salaire le mal qui te ronge. Révoque ta donation, ou, tant que je pourrai arracher un cri de ma gorge, je te dirai que tu as mal fait. Lear. Écoute-moi, félon. Sur ton allégeance, écoute-moi. Puisque tu as tenté de nous faire rompre un vœu, ce que jamais nous n'osâmes, puisque dans ton orgueil outrecuidant, tu as voulu t'interposer entre notre sentence et notre autorité, ce que notre caractère et notre rang ne sauraient tolérer, fais pour ta récompense l'épreuve de notre pouvoir. Nous t'accordons 5 jours pour réunir les ressources destinées à te prémunir contre les détresses de ce monde. Le 6e, tu tourneras ton dos maudit à notre royaume. Et si le 10e, ta carcasse bannie, est découverte dans nos domaines, ce moment sera ta mort. Arrière, par Jupiter, cet arrêt ne sera pas révoqué. Kent. Adieu, roi, puisque c'est ainsi que tu veux apparaître, ailleurs est la liberté, et l'exil est ici. Accordélia. Que les dieux te prennent sous leur tendre tutelle, ô vierge qui pense si juste et qui a si bien dit. À Regan et à Gonéril, et puissent vos actes confirmer vos beaux discours et de bons effets sortir de paroles si tendres. Au duc d'Albany et de Cornouailles. Ainsi, ô prince, Kent vous fait ses adieux. Il va acclimater ses vieilles habitudes dans une région nouvelle. Il sort. Rentre Gloucester, accompagné du roi de France, du duc de Bourgogne et de leur suite. Gloucester, à Lear. Voici les princes de France et de Bourgogne, mon noble seigneur. Lear. Messire de Bourgogne, nous nous adressons d'abord à vous, qui, en rivalité avec ce roi, recherchez notre fille. Que doit-elle au moins vous apporter en dot pour que vous donniez suite à votre requête amoureuse? Le duc de Bourgogne. Très royale majesté, je ne réclame rien de plus que ce qu'a offert votre Altesse, et vous n'accorderez pas moins. Lear. Très noble bourguignon. Tant qu'elle nous a été chère, nous l'avons estimée à ce prix. Mais maintenant, sa valeur est tombée. La voilà devant vous, messire. Si quelques traits de sa mince et spécieuse personne, si son ensemble auquel s'ajoute notre défaveur, et rien de plus, suffit à charmer votre grâce, la voilà. Elle est à vous. Le duc de Bourgogne. Je ne sais que répondre. Lear. Telle qu'elle est, messire, avec les infirmités qu'elle possède. Orpheline, nouvellement adoptée par notre haine, dotée de notre malédiction et reniée par notre serment. Voulez-vous la prendre ou la laisser? Le duc de Bourgogne. Pardonnez-moi, royal sire, un choix ne se fixe pas dans de telles conditions. Lear. Laissez-la, donc, seigneur. car par la puissance qui m'a donné l'être, je vous ai dit toute sa fortune. Au roi de France, quant à vous, grand roi, je ne voudrais pas faire à notre amitié l'outrage de vous unir à ce que je hais. Je vous conjure donc de reporter votre sympathie sur un plus digne objet qu'une misérable que la nature a presque honte de reconnaître. Le roi de France. Chose étrange, que celle qui, tout à l'heure, était votre plus chère affection, le thème de vos éloges, le baume de votre vieillesse, votre incomparable, votre préféré, ait en un clin d'œil commis une action assez monstrueuse pour détacher d'elle une faveur qui la couvrait de tant de replis. Assurément, sa faute doit être bien contre nature et bien atroce, ou votre primitive affection pour elle était bien blâmable. Pour croire chose pareille, il faudrait une foi que la raison ne saurait m'inculquer sans un miracle. Cordelia à lire. J'implore une grâce de votre majesté. Si mon tort est de ne pas posséder le talent disert et onctueux de dire ce que je ne pense pas, et de n'avoir que la bonne volonté qui agit avant de parler, veuillez déclarer la vérité, sire. Ce n'est pas un crime dégradant, ni quelque autre félonie. Ce n'est pas une action impure, ni une démarche déshonorante qui m'a privé de votre faveur. J'ai été disgracié, parce qu'il me manque, et c'est là ma richesse, un regard qui sollicite toujours, une langue que je suis bien aise de ne pas avoir, bien qu'il m'en ait coûté la perte de votre affection. Lire. Mieux vaudrait pour toi n'être pas né que de m'avoir à ce point déplu. Le roi de France. N'est-ce que cela ? La timidité d'une nature qui souvent ne trouve pas de mots pour raconter ce qu'elle entend faire ? Monseigneur de Bourgogne, que dites-vous de madame ? L'amour n'est pas l'amour quand il s'y mêle des considérations étrangères à son objet suprême. Voulez-vous d'elle ? Elle est elle-même une dot. Le duc de Bourgogne. Royal lire. Tenez seulement la dot que vous-même aviez offerte, et à l'instant je prends la main de Cordelia, duchesse de Bourgogne. Lire. Rien. J'ai juré, je suis inébranlable. Le duc de Bourgogne à Cordelia. Je suis fâché que, pour avoir ainsi perdu un père, vous deviez perdre un mari. Cordelia. La paix soit avec Messire de Bourgogne, puisque des considérations de fortune font tout son amour. Je ne serai pas sa femme. Le roi de France. Charmante Cordelia, toi que la misère rend plus riche, le délaissement plus auguste, l'outrage plus adorable, toi et tes vertus vous êtes à moi. Qu'il me soit permis de recueillir ce qu'on proscrit. Dieu, Dieu, n'est-ce pas étrange que leur froid dédain ait échauffé mon amour jusqu'à la passion ardente ? À lire. Roi, ta fille sans dot, jetée au hasard de mon choix, régnera sur nous, sur les nôtres et sur notre belle France. Et tous les ducs de l'humide Bourgogne ne rachèteraient pas de moi cette fille, précieuse et dépréciée. Dis-leur adieu, Cordelia, si injuste qu'il soit. Tu retrouveras mieux que tu as perdu. Lire. Elle est à toi, Français. Prends-la, une pareille fille ne nous est rien, et jamais nous ne reverrons son visage. À Cordelia. Pars donc sans nos bonnes grâces, sans notre amour, sans notre bénédiction. Venez, noble Bourguignon. Fanfare, sortent lire les ducs de Bourgogne, de Cornouailles et d'Albanie, Gloucester et leur suite. Le roi de France à Cordelia. Dites adieu à vos sœurs. Cordelia. Bijoux de notre père, c'est avec des larmes dans les yeux que Cordelia vous quitte. Je sais ce que vous êtes, et j'ai, comme sœur, une vive répugnance à appeler vos défauts par leur nom. Aimez bien notre père, je le confie au cœur si bien vanté par vous, mais, hélas, si j'étais encore dans ses grâces, je lui offrirais un trône en meilleur lieu. Sur ce, adieu à toutes les deux. Goneril, ne nous prescris pas nos devoirs. Regan, étudiez-vous à contenter votre mari, qui vous a jeté, en vous recueillant, l'aumône de la fortune. Vous avez marchandé l'obéissance, et vous avez mérité de perdre ce que vous avez perdu. Cordelia. Le temps dévoilera ce que l'astuce cache en ses replis. La honte finira par confondre ceux qui dissimulent leurs vices. Puissiez-vous prospérer. Le roi de France. Viens, ma belle Cordelia. Il sort avec Cordelia. Goneril. Sœur, j'ai beaucoup à vous dire sur un sujet qui nous intéresse toutes deux très vivement. Je pense que notre père partira d'ici ce soir. Regan. Bien sûr, et avec vous. Le mois prochain, ce sera notre tour. Goneril. Vous voyez combien sa vieillesse est sujette aux caprices. L'épreuve que nous en avons faite n'est pas insignifiante. Il avait toujours préféré notre sœur, et la déraison avec laquelle il vient de la chasser est trop grossièrement manifeste. Regan. C'est une infirmité de sa vieillesse. Cependant, il ne s'est jamais qu'imparfaitement possédé. Goneril. Dans la force et dans la plénitude de l'âge, il a toujours eu de ses emportements. Nous devons donc nous attendre à subir, dans sa vieillesse, outre les défauts enracinés de sa nature, tous les accès d'impatience qu'amène avec elle une sénilité infirme et colère. Regan. Nous aurons sans doute à supporter de lui maintes boutades imprévues, comme celle qui lui a fait bannir Kent. Goneril. La cérémonie des adieux doit se prolonger encore entre le Français et lui. Entendons-nous donc, je vous prie. Si, avec les dispositions qu'il a, notre père garde aucune autorité, la dernière concession qu'il nous a faite deviendra dérisoire. Regan, nous aviserons. Goneril, il nous faut faire quelque chose, et dans la chaleur de la crise. Elles sortent.